CFM Cahors, le mag. Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur le MAG de Cahors. Dans la prochaine demi-heure, nous aborderons l'actualité cadurcienne. L'Institut de formation et recherche en hypnose thérapeutique de Toulouse organise sa conférence « Comprendre les mécanismes inconscients de nos émotions ». C'est ce samedi 17 juin à 15h au musée Armand Viré. C'est au 152 rue de la Ville à Luzèche. C'est à 20 minutes à l'ouest de Cahors et ce sera animé par Sandrine de Freitas, cofondatrice de l'IFRET, dont là je dis l'acronyme, qui est masseuse kinésithérapeute et certifiée praticienne en hypnose, et Pascal Dion, notre invité du jour, cofondateur également de l'IFRET, hypnothérapeute, conférencier et auteur. Il y aura d'ailleurs une séance de dédicace à la fin de la conférence et on y reviendra en fin d'émission. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes donc le cofondateur de l'IFRET. Pouvez-vous nous raconter la genèse de cet institut ?
Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, donc nous travaillons ensemble avec Sandrine depuis de nombreuses années. Et le parcours qu'on a pu avoir chacun est un petit peu différent. Donc, je vais en profiter, je vais parler un petit peu plus du mien parce que, en fait, je fais des formations en hypnose depuis très longtemps. Mmh. Et je cherchais justement, la possibilité de rencontrer quelqu'un pour approfondir des notions particulières, notamment dans le domaine des neurosciences, puisque depuis maintenant de nombreuses années, on arrive à avoir des informations plus précises sur la façon dont le cerveau fonctionne et notamment comment ce qu'on appelle les états modifiés de conscience peuvent nous impliquer dans nos vies et être même des intégrateurs de changements de comportement, voire même dépasser parfois des moments extrêmement douloureux. Donc c'est la rencontre avec Sandrine, passionnée par la neuroscience et puis je dirais une personnalité de curiosité et également d'apprentissage transverse parce que c'est vrai, il y a les kinés, comme vous l'avez dit, il y a aussi une passion pour des médecines traditionnelles comme la médecine traditionnelle chinoise qu'elle exerce et qu'elle enseigne également. Et puis tout un tas d'autres disciplines, l'hypnose est venue aussi et lorsque nous sommes rencontrés, on a émis le projet assez rapidement de pouvoir créer un institut. Donc cet institut, donc en effet de formation et de recherche, comme vous l'avez souligné, c'est un institut qui permet de se former à une hypnose dite thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose thérapeutique? On va dire qu'elle se dissocie d'une hypnose qu'on appelle de spectacle. Donc on n'utilise pas les mêmes leviers, les mêmes moyens et les buts sont différents puisqu'il s'agit d'une hypnose thérapeutique. Mmh. Donc on va donc donner dans cet institut beaucoup, beaucoup de place, à la fois bien évidemment à la pratique et à l'expérience de l'hypnose, évidemment, oui. Mais aussi à la relation thérapeutique. Pour nous, ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire que les gens qui seront formés chez nous vont comprendre, en effet, comment on appréhende une personne qui a des phobies, une qui va avoir des formes addictives, etc., etc., etc.
Alors l'hypnose, donc c'est quelque chose que vous proposez dans votre institut. Qu'est-ce qui caractérise votre pédagogie, justement ?
Alors, la caractéristique de la pédagogie, c'est qu'elle est au-delà d'un apprentissage que ceux qui pratiquent l'hypnose aujourd'hui ont connu, c'est-à-dire des apprentissages traditionnels à base d'une hypnose qui, la plupart du temps, se nomme ericksonienne du nom de son fondateur, Milton Erickson, qui était un psychiatre américain et qui, on peut le dire, est le père de l'hypnose moderne. Voilà. Alors, il y a des bases, évidemment, qui sont des bases théoriques et pratiques, tout à fait naturelles. Et puis, il y a ce qu'on va appeler la clinique, c'est-à-dire l'expérience des praticiens. Et aujourd'hui, je pense que je dois arriver à peu près à 35 000 heures de travail. Donc, ces 35 000 heures m'ont permis d'appréhender de nombreuses, on va dire, de nombreuses perceptions de travail en hypnose. Et puis, la rencontre avec Sandrine nous a amené également à notifier sur un point de vue neurologique et neuroscientifique comment la perception de l'hypnose pouvait se faire à l'intérieur de notre cerveau. Donc, une des particularités, donc la relation thérapeutique, comme je l'ai dit en avant-propos, mais également la compréhension donc dans les neurosciences. Et puis, en troisième point, on se sert beaucoup du travail sur l'inconscient collectif et individuel qu'a fait donc le psychiatre Carl Gustav Jung. Nous avons également un autre maître qui arrive par derrière de temps en temps, qui s'appelle Gilbert Durand et qui a créé donc une faculté de l'imaginaire à Grenoble, qui est décédé, mais qui cette faculté continue aujourd'hui avec le professeur Maffesoli. Donc il y a un autre personnage qui lui aussi est décédé, mais qui nous rend visite, si je puis dire. Il s'agit donc de François Roustan, qui a été un très grand psychanalyste et qui est devenu par la suite donc un maître en hypnose et qui nous a appris à comprendre le corps et les variations du corps en réaction par rapport au champ hypnotique aussi. Voilà.
Alors Pascal Dion, quel est le public auquel s'adresse, auquel est élaborée cette formation ?
Alors cette formation est une formation qui s'adresse à des publics différents. Je vous le donne par l'expérience finalement de ce qu'on a pu vivre. Elle n'est pas réservée du tout à ce qu'on appelle le médical ou le paramédical. Il existe une structure qui est centrée spécifiquement sur le médical et le paramédical. Mmh. Et nous avons donc créé des ouvertures sur des plans thérapeutiques. Aujourd'hui, des thérapeutes qui sont déjà formés à d'autres disciplines, comme l'EFT, le MDR, la sophrologie et bien d'autres, viennent chez nous pour apprendre à la fois la dimension hypnotique. Et puis nous rencontrons également des gens qui sont en totale reconversion, des enseignants, des ingénieurs ou des gens qui viennent de différents milieux, qui veulent donc découvrir un autre monde et se lancer dans une autre activité. Et puis des psychologues ou des psychanalystes qui veulent faire des ponts entre leur apprentissage, leur technique et puis une autre technique qu'on appelle l'hypnose. In his eye, alarm bells raging round his brain, and the chimney's smoking in the sky. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human.
Smell the Roses de Roger Waters. Vous êtes bien sur CFM Radio. Et nous sommes avec Pascal Dion, cofondateur de l'IFRET, l'Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique. Donc voilà, ils sont situés à Toulouse, en plein cœur de la ville. Ils organisent ce samedi 17 juin à 15h une conférence qui s'intitule « Comprendre les mécanismes inconscients de nos émotions ». On va y rentrer dans le vif du sujet, donc ça se passe, je l'ai dit, samedi. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème pour la conférence de samedi ?
C'est un thème qui est à la fois fondateur parce que la plupart des personnes qui viennent dans nos cabinets, donc comme je vous le disais, nous avons des cabinets de consultation et la souffrance qui est manifestée se manifeste la plupart du temps par une émotion et cette émotion elle est difficilement gérable par la plupart des gens. La tristesse, la colère, la jalousie, le sentiment d'injustice. Donc toutes ces émotions en fin de compte c'est une palette incroyable, une palette arc-en-ciel qui va à la fois nous poser une problématique, mais c'est aussi à travers elle qu'on va pouvoir trouver des solutions. Donc on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir proposer en fin de compte peut-être une vision à travers le travail de l'hypnose, c'est-à-dire un travail avec des champs modifiés de la conscience, de comprendre comment ces phénomènes émotionnels pouvaient-ils se créer en nous, comment on pouvait non pas les éviter, parce que c'est impossible, plutôt mieux vivre avec, pour en faire finalement des voies de guérison, si je puis dire.
Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ?
Ah, la définition d'une émotion, si vous voulez, dans l'étymologie même, ça veut dire mouvement. En fait, émotion, ça veut dire se mouvoir. Donc en fait, ce sont des activités cérébrales, donc des pensées, des sensations, des sentiments qui vont se mettre en mouvement. Donc c'est plutôt quelque chose de positif puisque la vie est un éternel mouvement. Et c'est donc ce mouvement qui va prendre naissance, qui va s'accroître, qui va s'accélérer et qui va donner la sensation donc d'une émotion forte, parfois même insupportable. Mmh. Voilà, donc c'est la définition de base.
Et à quoi servent-elles finalement ces émotions ?
C'est une manifestation, c'est une volonté de s'adapter vers quelque chose. C'est-à-dire que elle dit au cerveau, cette émotion, qu'il faut faire un pas de plus ou un pas au-delà, mais qu'il va falloir changer quelque chose. L'émotion est le signal qui nous indique qu'il faut aller dans une autre direction. Voilà pourquoi elle est importante.
D'accord, donc elle relève d'une interaction avec son environnement.
Elle relève à la fois d'une relation avec l'environnement et en même temps d'une relation avec l'état dans lequel nous sommes au moment où nous vivons quelque chose. Ce qui signifie que vous avez à la fois une vision de qui nous sommes et de ce qui se passe dans l'environnement. Si vous prenez par exemple quelque chose qui semble assez flou mais qui pourtant a une réalité qu'on appelle l'intuition, eh bien l'intuition va être à un instant une émotion forte, un peu comme un warning qui va vous donner une information assez flou, mais quand même assez précise, de quelque chose que vous devez arrêter, ne pas continuer, ne pas faire ou faire. Et alors évidemment, dans notre Occident, nous ne sommes pas vraiment habitués à travailler avec l'intuition, puisque nous la confondons avec une sorte d'a priori. Et pourtant, l'intuition, par exemple, c'est une forme émotionnelle qui renferme, je dirais, la somme de toutes les informations que l'inconscient a pu générer depuis que nous sommes en vie. Et c'est pour ça que parfois, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, eh bien, cet inconscient intuitif nous envoie une petite information et nous dit « c'est ok » ou « méfie-toi ». Et la plupart du temps, il faut bien dire, nous ne suivons pas cette information-là. Donc on va parler de tout ça à la conférence, entre autres.
Et alors, du coup, dans cette conférence, j'imagine que vous allez pouvoir aussi expliquer comment est-ce que l'hypnose fonctionne un peu dans notre cerveau. Ce serait intéressant de nous expliquer un peu ça pour nos auditeurs et auditrices.
Oui. Oui, comment l'hypnose fonctionne ? Alors, au-delà de la pratique elle-même, on pourrait dire que l'hypnose est un phénomène naturel que nous avons à peu près toutes les 90 minutes. On pourrait associer l'hypnose à une sorte de décrochage conscient-inconscient. Par exemple, nous continuions de parler pendant une heure pleine de tout ce que nous sommes en train de dire, et si je prenais une voix qui commençait à être un petit peu plus monotone, c'est-à-dire si je commence à me débarrasser de toute intention finalement émotionnelle, vivante, eh bien nous aurions malheureusement pour vous une partie du public qui commencerait à décrocher parce que quelque chose ne serait plus captivant ou captable. Et donc, nous avons besoin de pouvoir décrocher régulièrement, toutes les heures à peu près, toutes les 90 minutes. Donc, l'état d'hypnose est un état naturel qui nous permet à la fois de nous déconnecter de ce que nous sommes en train de vivre, ce qui est tout à fait naturel. C'est un petit peu comme les programmes d'un smartphone. Mm-hmm. Vous êtes obligé d'éteindre l'appareil pour pouvoir permettre à la programmation de se recharger. Là, c'est pareil. C'est un phénomène naturel du cerveau. Donc, tout le monde est, entre guillemets, hypnotisable. Vous savez, il y a des gens qui pensent, en effet, qu'ils ne sont pas réceptifs. On l'est tous. Par contre, on a des degrés de résistance. Si on va dans la pratique elle-même, elle est à la fois induite par le principe de la relation thérapeutique, c'est-à-dire des mots qui vont être employés, de l'incarnation des mots qui vont être employés, parfois même de certains silences, d'un type de langage. Le langage hypnotique est un langage très spécifique dans lequel il y a des particularités qu'on n'utilise pas véritablement dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça que un climat particulier va pouvoir se créer. Et puis, une voix. Alors, il n'y a pas une voix hypnotique particulièrement, mais il y a une intonation, il y a une résonance de voix qui s'apprend dans les formations, dans les écoles. Et à partir de cet instant, le sujet va être dans un double état. C'est-à-dire qu'il va être là et un peu ailleurs. Et c'est cet un peu ailleurs qui lui permet d'aller connecter sa propre possibilité de guérison à travers le travail métaphorique et symbolique que va faire le praticien. Voilà. L'hypnose, c'est à la fois un mélange de flou et d'une hyper-précision. Donc, il y a une saturation, je dirais, et une petite sidération chez le sujet.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanaï, Hanaï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanaï, Hanaï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie dégringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouillonne. Devant moi, un tableau. Des amoureux se questionnent et ma voix chantonne. Je te reverrai. La chaleur humide sur tes trottoirs. Hanaï, Hanaï, tu me fais voir. Ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanaï, Hanaï, je t'appartiens. Sur l'eau verte, tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard. Je regarde si je t'aperçois. Hanaï, Hanaï, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanaï, Hanaï.
Hanoï, la grande Sophie sur CFM Radio. Nous sommes toujours sur le Mac de Cahors en présence de notre invité du jour, Pascal Dion. Vous êtes cofondateur avec Sandrine De Freitas de l'Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique à Toulouse. Vous organisez notamment la conférence Comprendre les mécanismes inconscients de nos émotions. C'est ce samedi 17 juin à 15h, au musée Armand Viré dans la ville de Luzèche. C'est à 20 minutes à l'ouest de Cahors. Et on va à présent aborder la troisième partie de cette émission. Vous avez réalisé une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Alors, une de vos conférences, et finalement, il y a une question qui m'est venue en la visionnant. Vous parlez d'un système d'information émotionnelle. Qui remonte de très loin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est que cette notion de système d'information émotionnelle?
Oui, à la fois, c'est une récurrence qui a été proposée par différents spécialistes, notamment Jung, lorsqu'il parle de cet inconscient collectif, les fervents défenseurs de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc, vous posséderiez, moi aussi, et visiblement, d'après eux, et c'est très séduisant, l'ensemble de l'humanité, une mémoire qui pourrait donc remonter à des temps immémoriaux, si vous me permettez. Ce qui fait que il y a des situations, il y a donc des rencontres, il y a des moments que nous ne connaissons pas et pourtant qui nous sont familiers. Et nous avons également, donc, de tous ces instants que nous avons oubliés ou que nous ne pensons pas connaître, des mémoires. Et ces mémoires, en effet, elles subsistent, elles existent. Et d'ailleurs, vous en avez peut-être fait l'expérience, mais lorsqu'on retourne dans une maison d'enfance, eh bien, au-delà des murs qu'on redécouvre, on redécouvre en effet la sensation, c'est-à-dire l'émotion qu'on pouvait vivre. Il y a quelque chose qui est là, et pourtant, il n'y a rien d'évoqué particulièrement. Il n'y a pas forcément une photo, une histoire qui se déroule, mais il y a quelque chose qui demeure. Peut-être même que les lieux portent en eux des instants de mémoire. On sait que le corps a des mémoires, les lieux en ont peut-être aussi, ce qui signifierait que finalement, entre vous et moi, au-delà de nos technologies et de nos appareils, quelque chose d'autre continue de communiquer.
Est-ce qu'on pourrait dire, Pascal Dion, que les mécanismes inconscients donc de nos émotions sont en partie conditionnés justement par ces systèmes d'information émotionnelle?
Oui, en partie. Et puis comme vous l'avez relevé au début de notre entretien, également par les environnements. L'environnement, on peut très bien aussi ramener l'environnement à une forme éducative, c'est-à-dire de parentalité. Et cette parentalité, en effet, elle va laisser une trace conséquente, puisque en fait, on arrive avec très peu, entre guillemets, d'ADN de cet héritage familial, un peu, mais pas beaucoup. Mais on pourrait dire quand même que l'environnement, c'est-à-dire la façon dont on va être éduqué, ce qu'on va y voir, ce qu'on va y comprendre, va peser à plus de 40%. Donc, nous sommes quand même involontairement des héritiers de ce qu'on nous aura transmis, encore une fois de plus, involontairement.
Je rappelle qu'à la fin de cette conférence samedi 17 juin, donc dans la ville de Luzèche au musée Armand Viré, il y aura donc une séance de dédicace, car vous êtes aussi donc auteur, pas seulement conférencier mais aussi auteur. Le dernier en date, si je ne me trompe, c'est la prison des conditionnements.
Oui, c'est ça. Vous voyez, on en parlait il y a quelques instants. Oui, oui, il y a une petite série là, qui est sortie en 2 ans de quatre petits livres qui propose avec un accès, on va dire, assez ouvert, les grands thèmes, en fin de compte, du travail qu'on peut faire dans un cabinet d'accompagnement thérapeutique, avec donc à la fois une proposition de compréhension et puis des possibilités de travail à la fin. Donc c'est ces quatre ouvrages donc que je vais proposer en dédicace ce samedi.
Voilà, Pascal Dion, cofondateur de l'IFRED, l'Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique de Toulouse. On rappelle qu'il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver donc les informations concernant les formations, les masterclass, les ateliers qui sont proposés. Peut-être que pour le mot de la fin, avant je vais peut-être rappeler donc la conférence, donc comprendre les mécanismes inconscients de nos émotions. Donc c'est samedi 17 juin au musée Armand Viré à Luzèche. Peut-être que oui. Pascal Dion, vous voulez avoir le mot de la fin?
Écoutez, je pense que, comme la plupart des gens qui travaillent avec moi, notre objectif, c'est toujours de pouvoir éveiller les consciences. Et moi, j'aurais passé donc une grande partie de ma vie pour éveiller les gens à essayer de les endormir. Voilà. Mais c'est une petite blague. C'est juste pour dire un peu dans quel état d'esprit aussi on va se retrouver samedi. C'est-à-dire que nos conférences ne sont jamais magistrales. Elles ne sont que de la transmission et du partage. Voilà ce que je voulais dire.
Pascal Dion de l'Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique de Toulouse. Merci beaucoup.
Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr